présenter le parcours un peu de Karim. Donc Karim a un bac en architecture et ce qui on a discuté ce matin un peu de ce parcours-là, ce qui est déterminant dans son parcours, c'est cet aller-retour et même des fois ce chevauchement entre la recherche, une réflexion académique et puis une réflexion très ancrée dans la pratique. Donc plusieurs allers-retours entre de l'emploi, de la recherche et des fois de l'emploi et de la recherche en même temps, notamment dans le cadre de la thèse doctorale. Ensuite, donc après ce bac en architecture, Karim a réalisé une maîtrise à l'Institut d'urbanisme à Paris et un doctorat plus tard, que tu as démarré au Québec en 2000 à l'UDM, à l'Institut d'urbanisme de l'UDM. Ouais. Donc voilà très brièvement la présentation de notre conférencier d'aujourd'hui. Je vous signale que la conférence est enregistrée et vos questions aussi seront enregistrées. Donc vous êtes avertis. Donc Karim pour une quarantaine de minutes.
Oui, excellent.
Très bien.
Juste je compléterai ta présentation, oui. C'est que je me décris aussi comme, je te l'ai dit tantôt, comme un praticien réflexif. Là je fais un clin d'œil, un titre d'un livre connu. Vous savez, là on est souvent dans la recherche, mais on sait qu'on développe un savoir dans la recherche, mais je suis de ceux qui pensent qu'il y a un savoir local, un savoir professionnel qui gagnerait à être mis en valeur. Et ma démarche vraiment vient de ce savoir professionnel que j'essaye d'élever peut-être au rang de savoir académique, universitaire. Donc vraiment, je me situe dans cette jonction-là, j'essaie, dans ma réflexion, vraiment, j'essaie de faire un pont, de lancer des ponts, ces deux savoirs, ces deux niveaux de savoir, que de mon point de vue, je pense que l'un nourrit l'autre. Je pense qu'il n'y a pas de rupture entre les deux. Ceci dit, on va passer à l'essentiel. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est une réflexion, ma propre réflexion, et donc c'est aussi un intérêt. C'est toute la question de l'articulation du projet, la planification urbaine, avec l'image, la représentation. C'est cette dualité que j'examine, là, que je vais essayer de faire partager un petit peu cet intérêt. Mais avant cela, je le fais de temps en temps, mais là j'ai décidé de le faire aussi. Je vais me livrer avec vous avec une petite expérience, un petit test. Vous allez comprendre pourquoi. Si je vous ai dit cette image, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qu'elle suscite en vous? Je vois au visage, là vous allez avoir probablement les mêmes interrogations que ces gens-là. En fait, cette personne assistait à une séance de consultation publique sur un projet majeur à Montréal, l'échangeur Turco. Et donc, ce qui ressortait ici, c'est une certaine incompréhension des images qu'on leur proposait, des images d'un projet qui allait considérablement changer le paysage de tout un pan de la ville de Montréal. Donc, il y avait une espèce d'incompréhension, les images qu'on leur montrait ne rendaient pas compte de ce qui s'en venait. Et c'est un petit peu ça que je souhaite aborder avec vous. Des fois on est submergé d'images, mais est-ce que ces images, ces représentations atteignent leur but? Donc, et donc ça nous interpelle, nous, en tant que citoyens, en tant que chercheurs, en tant qu'académiciens, en tant que professionnels sur cet aspect. Alors pour ce faire, là je vais faire une présentation en trois parties. Une première partie, le contexte de la recherche, c'est assez ramassé, vous allez voir. Puis je vais aborder ensuite deux points un peu plus opératoires, enfin, vous allez voir, théorique et pratique. Le deuxième, donc l'articulation, donc la dualité entre les dessins EIN et dessins IN. Donc, j'ai pris le soin de les souligner, souvent quand on le dit, on ne fait pas la distinction. Puis la troisième partie, je vais aborder une question, un axe, une réflexion que j'ai abordée dans ma thèse de doctorat, c'est toute la question d'un projet de territoire qui se pense globalement et localement à la fois. On discutait tantôt avec Joanne Bruchu là-dessus, la question du voir globalement et le détail. Ben, je vais voir comment l'image, la représentation peut prendre ou ne peut pas prendre ces deux instances, on va dire. Alors, je me suis appuyé, quand j'ai commencé cette recherche, je suis parti d'un certain nombre de constats. J'avais remarqué, c'est le cas toujours, que les disciplines du projet, la planification urbaine notamment, font l'objet de beaucoup de réflexions. Et la littérature est très riche à cet égard. Par contre, les formes descriptives les plus manifestes du projet, la médiation visuelle, la représentation d'images, ou ce que j'appelle la mise en scène graphique du projet, les moins. Cette articulation a été abondamment traitée par un auteur que j'aime bien, moi. Des fois, il énerve certains, mais Jean-Pierre Boutinet, je pense, même s'il n'est pas du domaine de l'aménagement, il est un psychologue, mais il a un regard très pertinent sur notre activité, sur l'activité du projet. Et c'est un des auteurs qui ont mis justement en évidence cette dualité fondatrice du projet, c'est-à-dire le passage de l'intention vers l'espace de l'espace intentionnel vers l'espace de concrétisation. C'est un petit peu les termes qu'il utilise. Alors, bien que cette dualité est prise en compte, il y a une espèce de conscience de cette dualité, ce qu'on aperçoit dans la réalité, dans la pratique, c'est que souvent l'issue du projet du territoire est tributaire en partie des représentations qui en rendent compte, mais ces représentations, comme je l'ai montré tantôt, elles sont peu questionnées, elles sont souvent confinées à un artefact, on y va par tâtonnement, paradoxalement. Puis, toujours en termes de constat, à cette dualité projet-représentation s'invite aujourd'hui, s'insère toute la question du numérique, les technologies de l'information, la géomatique, etc. C'est comme une couche supplémentaire qui s'insère. Et donc ça pose de nouvelles questions, de nouvelles questions méthodologiques, dont je vais aborder certaines, pas toutes, on n'aura pas le temps. Donc vous voyez, ma réflexion partait un petit peu de ces grands constats. Alors, j'ai dû donc, en bon chercheur, partir d'une hypothèse là, de recherche. À l'époque, c'était la fin des années 90, c'était le boom des technologies de l'information. Et donc je me disais, je partais de ce préjugé que le recours à la géomatique lors d'un exercice de planification permet d'améliorer le processus. Donc je partais de cette hypothèse, de ce parti pris de départ. Donc ce qui était une approche démonstrative, donc j'avais une hypothèse, je voulais la tester sur le terrain, donc il fallait chercher un terrain propice à la démonstration. Un concours de circonstances, à la même période, il y avait le démarrage du plan d'urbanisme de Montréal qui commençait 2002. Donc là, j'ai trouvé, je dis, c'est formidable, là, il y a un exercice de planification, je vais prendre ça comme terrain et je vais essayer de démontrer que la géomatique, là, peut améliorer certains processus de la décision. Je ne savais pas quoi, mais je dis, il y a quelque chose à faire. Donc j'avais entrepris des démarches auprès de la ville de Montréal. Donc, de façon conventionnelle, tu sais, pour faire la collecte de données, l'observation. Je ne savais pas comment, mais c'était en négociation à l'époque. Puis, et c'est ça qui, je pense, qui est un petit peu inédit là, dans mon approche, c'est que donc je sollicitais une approche au terrain genre périphérique, c'est-à-dire un détachement, une distanciation. Je voulais démontrer, je voulais juste collecter des données, participer à certaines rencontres. Et je me suis vu petit à petit comme aspiré, happé par ce terrain, où je suis passé de l'observation participante, donc j'étais impliqué dans le processus de planification urbaine, jusqu'à devenir participant observant. Donc c'est une espèce de renversement de la position du chercheur. J'étais chercheur, je me considérais chercheur à l'époque. Des fois, je me considérais plus praticien. Donc à un moment donné, je ne savais plus. Fallait-il garder une distance entre le sujet et l'objet? Donc ça, c'est des questions très profondes hein, que tout chercheur se pose. Et là, ça suppose une posture épistémologique. On a souvent tendance à vouloir être neutre par rapport au sujet. Il y a des postures épistémologiques de type constructiviste qui suggèrent que l'implication du chercheur, la subjectivité est une forme de connaissance en soi, une forme d'acquisition du savoir en soi. Donc ça, c'est un débat entre épistémologues, là, qu'on ne va pas faire ici. Donc j'avais l'occasion, l'opportunité d'observer un terrain, un phénomène en flagrant quotidien. Donc ça, c'est, je pense, c'est intéressant pour un tel sujet. Bon, bien sûr, il y a toutes des sortes de considérations méthodologiques que je viens de mentionner. Je sais que ma voix ne porte pas très, très haut, donc si au fond, là, je peux augmenter d'une octave ou deux, ça ne me dérange pas. Je serai fatigué un petit peu à la fin. Alors, je me suis rendu compte que, arrivé avec une espèce de certitude, donc je voulais démontrer que la géomatique pouvait améliorer. Tu as appris que la complexité d'un processus de planification urbaine, un exercice de planification urbaine, ce terrain ne se laissait pas prendre au jeu de la démonstration. Alors pour tout chercheur qui arrive avec des certitudes bien établies dans un terrain de recherche, vous pouvez imaginer que ça peut être très déstabilisant parce que j'avais une hypothèse que je considérais balèze parce qu'elle était assise sur des littératures établies, sur des cas théoriques bien établis. Donc j'arrivais dans le terrain et ça marchait pas, ça fitait pas. Et ça, c'est dû à la complexité justement d'un exercice de planification urbaine que je situerais à deux niveaux. Une complexité liée à la démarche en tant que telle. Dans un exercice de projet, il y a des logiques plurielles, souvent antagonistes, hein, qui sont en confrontation. Les processus ne sont pas linéaires, sont souvent en itération, en boucle. Des incertitudes, beaucoup d'ambiguïté dans un exercice de planification, j'en dirai quelques mots tantôt. Puis le deuxième niveau de complexité est lié au territoire lui-même. Dans le cas de Montréal, je le mentionnerai tantôt, on est dans un territoire en recomposition, fusion, défusion, etc. Donc ça portait un niveau de complexité supérieur. Puis il y avait toute la question des logiques d'échelle, locale versus globale, dimension affective. Lié au territoire. Donc, du coup, je suis passé d'une approche démonstrative à une approche plutôt exploratoire. Donc, j'ai comme mis un petit peu de l'eau dans mon vin, comme on dit. J'ai pris du recul et il fallait donc reformuler un petit peu mon hypothèse de départ, qui était reformulée comme ça, mais pas textuellement. Là, je prends pas ça, j'ai pas fait un copier-coller de ma thèse, mais j'ai essayé de la condenser. Où je disais qu'il existe un écart entre la complexité du projet de territoire et les modalités de sa représentation. Et donc là, on a des hypothèses, donc il s'est reformulé un petit peu chemin faisant en fonction de la réalité du terrain. Et ça, en effet, dans un contexte où le projet de territoire devient donc de plus en plus complexe, des incertitudes, enchevêtrement des actions, diversité des acteurs et des logiques. Des enjeux qui sont multidimensionnels aujourd'hui, le développement durable qui rentre en ligne de compte, les considérations environnementales, les exigences sociales aussi en matière d'aménagement, des territoires qui bougent, qui sont en perpétuel changement. Puis un grand changement aussi, c'est que le projet territoire est de plus en plus aujourd'hui en débat. Donc ça devient comme un impératif, une exigence sociale. Et dans ce contexte, et ça, c'est donc mes observations dans le terrain, c'est que la représentation ou l'image qui doit rendre compte de ce projet de territoire complexe éprouvait une certaine difficulté à rendre compte. Et là, je reprends une phrase, une petite anecdote, là, je fais une petite parenthèse. Quelqu'un, lors de l'élaboration du plan d'urbanisme, un responsable, en fait, lors d'une rencontre, pour discuter d'une orientation d'aménagement. Donc, de façon hebdomadaire, il y avait des rencontres, les urbanistes, les conseillers en aménagement, pour en apporter des cartes. Les géomaticiens produisaient des cartes. Ça produisait pas mal. Donc, on mettait les cartes sur table, puis on discutait des orientations d'aménagement. Et à un moment donné, il y a eu quand même un malaise dans la salle, c'est que on se rendait compte que les images qui étaient sur la table ne rendaient pas compte. On avait du mal à les comprendre, on avait du mal à traduire nos orientations et les objectifs d'aménagement. Les enjeux n'apparaissaient pas sur la carte. C'est un petit peu la première carte que je vous ai mentionnée tantôt. Et donc là, quelqu'un responsable du plan d'urbanisme qui se lève, là, fâché, là, vraiment rouge, il dit, nous voulons des cartes qui disent quelque chose. Là. Vous nous apportez des cartes, là, on ne comprend rien du tout. Et cette phrase-là, ça a été comme la bougie, c'était l'étincelle pour moi, dit, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, il y a une batterie de géomaticiens derrière ça, des cartographes, là, des moyens, des ressources, mais au final, là, ça semble ne pas répondre à certaines attentes. Puis, donc, un questionnement de recherche qui a émergé de ça. Les représentations construites et véhiculées, notamment par la médiation numérique, peuvent-elles prendre en charge un projet de territoire qui se pose dans toute sa complexité? Donc, c'était le questionnement sur lequel je m'étais dit que ça aurait été intéressant de répondre, mais dans ma thèse, je la formule pas de la même façon. La prise en charge, qu'on va prendre en charge, je le remplace dans ma thèse par la notion de complexification qui est rattachée à, qui fait référence à la pensée complexe d'Edgar Morin. Mais je ne souhaitais pas ici en débattre parce que là, ce n'est pas 40 minutes, ça c'est jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc avant de clore donc, cette partie-là, le contexte de la recherche, je souhaitais. J'ai parlé jusqu'à présent des représentations, des images, mais c'est toujours bon de statuer là-dessus. Qu'est-ce qu'on entend par l'image? Et c'est toujours bon de, tu sais, en tant que chercheur à l'université, c'est le moment de se poser ce genre de questions. C'est quoi le statut épistémologique? C'est quelle approche épistémologique doit-on adopter face à ces représentations, face aux images des territoires en projet? Alors, si on considère que les réalités sont construites, sont des hybrides de matière, de pratiques, d'idées. Il est possible aussi de dénoncer que la représentation participe à la lisibilité de ces réalités spatiales qui sont construites, circonstancielles et changeantes. Ce que fait la représentation, les images de projet essaient d'arranger ensemble, faire cohabiter ces réalités qui sont changeantes. Donc, je prends parti que les représentations, les images de projet ne sont pas objectifs. Sont pas objectives, elles sont nécessairement subjectives. Certains auteurs ont effleuré cette idée, mais d'une autre façon, Monmonier, dans son livre Faire mentir les cartes, il aborde pas cette question du point de vue épistémologique, mais il décortique vraiment le fait que les images, les cartes, quand il dit ils mentent, mais finalement elles dissimulent. Une carte n'est jamais objective. Elle montre que ce qu'on veut bien lui faire montrer. Donc ça, c'est important de le savoir et de l'accepter aussi. Puis il y a un auteur, là, Michel Lussault, qui ramasse bien ces considérations, où il dit que l'image ou l'énoncé visuel résorbe par anticipation la vacuité de ce qui n'existe pas encore, en exposant à la vue de tous l'épure d'un lieu transfiguré en un temps par la réussite de l'action. Je trouve que c'est très fort, là, cette phrase. La capacité de l'image, le pouvoir de l'image et de la représentation, je pense, est très bien décrite dans cette citation. Je vais y revenir un peu plus loin, vous verrez. J'aborde maintenant l'aspect un peu plus opératoire, un peu plus. Quand je dis opératoire, pas nécessairement pratique, mais il va y avoir un peu de théorie sur cette fameuse dualité entre le dessin. Et le dessin, entre la conception, entre l'intention, puis sa représentation. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui sont intéressés à cette dualité. J'ai mentionné tantôt Jean-Pierre Boutinet, mais aussi des philosophes qui l'ont évoqué. Wullenberger dit toute activité organisée de planification donne naissance à des images modélisant ou simulant ce qu'on attend. Ce que l'on attend de l'avenir. Aussi, l'exigence sociale en matière d'aménagement amène un impératif de voir le projet. C'est que les gens, maintenant, le citoyen, veut voir le projet, veut voir le projet dans toutes ses formes avant de se prononcer, avant de se prononcer, avant de délibérer. Donc, il y a le processus délibératif aujourd'hui qui est de plus en plus présent dans les projets. Que ce soit en amont ou enfin, a priori ou a posteriori, amène cette exigence de voir le projet en image. Je vais aborder maintenant un peu de façon plus pratique ce qui est question du plan d'urbanisme qui a été mon terrain d'étude, donc dire quelques mots. Donc là, je vais avoir deux discours. Un premier discours pratique, c'est quoi un plan d'urbanisme, qu'est-ce que ça fait à Montréal, etc. Puis un niveau théorique, parce que. Okay, on a un plan d'urbanisme, un instrument d'urbanisme. C'est toujours bon de le situer dans un cadre théorique. Dans quelle mouvance, dans quel mode de planification se ce plan d'urbanisme pourrait se situer? Alors, vous savez qu'un plan d'urbanisme, hein, c'est requis par la loi, par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme au Québec. C'est un document de référence en matière d'intervention sur le territoire. Dans le cas de Montréal, je pense que c'est valable aussi pour la ville de Québec. Un plan d'urbanisme fixe les grandes orientations, les grands enjeux, les grands objectifs en matière d'aménagement. Puis ces enjeux, ces orientations sont traduites en règlements au niveau des arrondissements, par le zonage en l'occurrence. Un plan d'urbanisme a une durée de vie, 10 ans. Au bout de 10 ans, il faut le refaire, le réviser, le réajuster. Celui de Montréal a été adopté en 2004, donc en 2014, on devra le réviser. Enfin, en fait, c'est un peu plus complexe. Montréal, s'ils font jamais, on fait jamais les choses comme tout le monde, là, parce qu'il y a un plan de développement urbain qui vient se superposer au plan d'urbanisme qui, lui, a une portée sur l'ensemble de l'île de Montréal. Le plan d'urbanisme que je traite, lui, a trait à la ville de Montréal. Je vais vous montrer des cartes tantôt. Et donc, il exclut ce qu'on appelle les villes de banlieue, les villes reconstituées. Donc, il y a comme une espèce de vide juridique aujourd'hui que le plan de développement urbain, là, pas montréalais, essaie de pallier. Puis, donc, le plan d'urbanisme, à l'été 2004, il y a eu à peu près une dizaine de séances de consultation publique. Donc, c'est des consultations publiques qui sont arrivées après coup, hein. Il n'y a pas eu de concertation vraiment au vrai sens du terme dans le cadre de cette démarche, mais un processus de consultation publique très formalisé, mené par l'Office de consultation publique de Montréal à l'époque. Alors, je vais faire le point là-dessus justement sur la question fusion, défusion. Québec aussi, je pense que la ville de Québec a vécu ce va-et-vient aussi. Là, j'ai mis trois cartes qui donnent globalement cette recomposition territoriale due aux fusions, défusions. Avant juin 2002, on avait cette configuration en orange, donc c'est la ville de Montréal. Là, c'est l'île, hein, l'île de Montréal. En orange, c'est la ville de Montréal. Puis, en blanc, c'est ce qu'on appelait à l'époque les villes de banlieue. Juin 2002, fusion municipale. Certains l'appelleront fusion forcée, d'autres opportune, mais ça c'est un autre débat. Donc juin 2002, fusion municipale, et là on voit le rêve d'un maire se réaliser, Pierre Bourque, une île, une ville, c'est-à-dire qu'on a une ville à la grandeur de l'île. Donc juin 2002, recomposition territoriale, donc ça prenait un nouveau plan d'urbanisme. Il y avait un premier plan d'urbanisme qui datait de 92. On a une reconfiguration territoriale, donc ça prenait un nouveau plan d'urbanisme pour tenir compte de cette nouvelle réalité territoriale. Donc, 27 arrondissements. Le plan d'urbanisme démarre juin 2002, se termine en novembre 2004 sur 27 arrondissements. Juin 2006, gouvernement provincial décide de partir en référendum pour donner la diffusion à certaines villes. C'est une pression à Montréal, même je pense un peu partout à Québec. Certaines villes voulaient ressortir du giron de Montréal. Là, il y avait des promesses électorales qui étaient faites à cet égard, mais ça, c'est un autre débat. Donc la diffusion a eu pour conséquence d'avoir 19 arrondissements, puis 15 villes reconstituées. Et donc le plan d'urbanisme s'arrêtait juste avant cette fusion municipale, cette défusion municipale. Sachant que le plan d'urbanisme est toujours valable, hein, jusqu'à aujourd'hui. Mais ce ne s'applique pas sur les territoires qu'on voit en blanc. Ça va pour ça? C'est toujours pas évident. Même à la ville, prenez n'importe quel employé, vous dites il y a combien d'arrondissements aujourd'hui? Y a-t-il 27, 19, 20, c'est toujours mêlé et mêlant. Ça, c'est un petit peu pour le portrait pratique, là, un petit peu concret du plan d'urbanisme. Là, je souhaitais situer cette démarche de planification dans un champ plus large, dans le champ de la planification. Et là, j'ai choisi de le faire non pas d'une façon linéaire, mais voir comment cet instrument d'urbanisme vient se superposer dans un contexte de changement paradigmatique. Mais ça, c'est toujours mon interprétation à moi. Je vois ces changements paradigmatiques sur trois axes, trois grands axes, on va dire, grosso modo. Il y a un axe, un premier axe, donc, qu'on voit ici, là, à l'horizontale, c'est le mode de planification qui part en termes de design. C'est-à-dire qu'au départ, on designait la ville sans chercher à mettre de l'ordre dans la ville, donc c'était plus sur la forme qu'on intervenait. Puis il y a quand même eu un glissement paradigmatique avec les années. Et là, la scientificité de la planification, ça c'est les apports de Simon, la systémique. Donc la planification se cherche une légitimité scientifique. On veut asseoir l'activité planificatrice sur des assises scientifiques. Donc la systémique était arrivée à cette époque. Donc la rationalité aussi. Donc c'est toute cette mouvance. Puis aujourd'hui, on se situerait, c'est toujours au conditionnel, où on dit que la planification est une intervention, est une action sociale. Et là, il y a toutes sortes d'auteurs, là, que j'en ai énuméré vraiment une infime partie, bien sûr. L'autre axe de changement paradigmatique qu'on voit ici à la verticale, c'est les différentes approches théoriques. On passe d'une approche substantive, les théories substantives, donc c'est la substance et la forme aussi, plus à une des théories de type procédural. Et là, c'est plus porté par des auteurs comme Falloudi dès les années 1973. Puis un dernier axe de changement paradigmatique, lui, a trait au rôle du planificateur. Et là, c'est important parce que le rôle, donc on passe de l'expert à un rôle de communicateur, de coordonnateur. Et je le vois aujourd'hui à la ville de Montréal, les urbanistes, les planificateurs se considèrent de moins en moins comme experts. Parce que l'expertise, finalement, aujourd'hui, elle est disséminée dans la société, elle existe partout. On ne peut plus se prévaloir d'une expertise, d'une vérité. Et donc, l'urbaniste, le planificateur, se retrouve plus à mobiliser, à articuler, à structurer ces différentes expertises. Donc, il devient plus comme coordonnateur, communicateur. Et ça, donc, ça a des incidences, vous allez le voir tantôt, sur la façon de se représenter le territoire. Et donc le plan d'urbanisme se situe un petit peu dans ce contexte, un petit peu, j'ai mis ça en rouge. Alors le trait n'est pas arrêté, mais c'est un petit peu cette zone. Le plan d'urbanisme de Montréal, c'est un plan qui s'assoit, qui est assis sur, qui est éminemment procédural, hein. C'est vraiment des processus. On ne cherche pas à définir des formes urbaines, bien qu'on y ait une carte qui porte sur les densités de construction. Mais ce n'est pas le gros du document. C'est une action sociale. Il a été très clair d'ailleurs dans les séances de consultation publique. La première slide qui arrivait, c'était toujours l'élu, le représentant, le responsable politique qui présentait donc le plan d'urbanisme, qui faisait l'introduction. Et son mot d'introduction, c'était: on vous présente le plan d'urbanisme qui est un contrat social entre l'administration municipale et le citoyen. Donc, ça a affirmé un petit peu la dimension sociale ou d'action sociale du plan d'urbanisme. Alors là, j'ai regardé le plan d'urbanisme en pratique, un peu en théorie. Là, donc, je vais, dans cette dualité, on va s'intéresser un petit peu à la représentation. Et là, donc, la plupart des auteurs s'accordent à dire qu'il y a deux instances dans la représentation. Je vais commencer par le premier, Jean-Pierre Boutinier, qui parle de deux significations dans le dessin, une première signification, une deuxième signification. Alors la première signification, c'est quoi? C'est que l'auteur d'une représentation, quand je dis l'auteur, ça peut être un collectif d'auteurs, d'une image, une représentation, va produire une représentation pour s'auto-évaluer. Pour évaluer, c'est comme un outil de travail en quelque sorte. Ça, c'est ce qu'on appelle la première signification. Deuxième signification, c'est ce qu'on appelle le porter à la connaissance. Une fois qu'on s'est arrangé entre nous, ben, ce projet de territoire, sa représentation, on va la porter à la connaissance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième signification. Des auteurs comme Ola Soderstrom parlent toujours des deux instances, de la représentation en termes d'efficacité interne, d'efficacité externe. Puis enfin, Chapeyron, lui, parle de problématisation et de figuration. C'est un petit peu l'expression que j'adopte généralement, celle que je préfère parce qu'elle est plus explicite. La première instance, on problématise, c'est un outil de travail. Puis la deuxième instance du dessin, on va faire de la figuration, on va faire de la mise en scène graphique pour porter ça à la connaissance, parce que le public est autre. Et donc c'est un petit peu la figuration qui, dans le cas du plan d'urbanisme, faisait un petit peu défaut. Quand je disais tantôt, je reprenais la phrase, nous voulons des cartes qui parlent, c'est parce que les cartes n'étaient pas suffisamment figuratives, elles étaient plus de l'ordre de la problématisation. Donc là, c'est juste pour rappeler un petit peu ces deux instances. Là, on passe du dessin ou de l'intention au dessin, la représentation avec les deux les instances du dessin. Alors, j'ai, dans le propos que je viens de tenir, parlé des grandes théories, des changements paradigmatiques, des différentes portées de la planification. Là, je viens de parler des deux instances de la représentation. Maintenant, on va voir comment les deux s'articulent. Autrement dit, Florent n'a jamais vu ces dessins. Je les ai faits juste pour la circonstance, là. Ça ne trouvera pas ça dans ma thèse, mais pour essayer de ramasser, de synthétiser un petit peu la réflexion. Parce que j'ai mis, ce que vous voyez en haut, là, ce que je décrivais tantôt, hein, théorie procédurale, l'action sociale, le planificateur en tant que coordonnateur, communicateur, puis en bas, les théories substantives, etc. Et on se rend compte que la figuration, la deuxième instance du dessin, est mobilisée par des portées planificatrices qui se situeraient à ce niveau. Donc c'est un petit peu cette articulation que je fais, ou cet arrimage que je fais, et ça c'est bien important. Je vais le dire pourquoi. Et ça a été le cas dans le plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme est éminemment procédural. C'est une approche, une planification de communication. Des fois, ça a la limite du marketing. Ben, à ce type de planification qui est tout à fait légitime, ben, ça prend des modes de représentation qui soient appropriés. Donc, la première carte que je vous ai montrée tantôt sur le spaghetti, ben, ça, c'est pas un mode de représentation adéquat en termes de figuration. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voyait les points d'interrogation sur les têtes des gens, c'est justement exprimer cet écart. Donc, il existe effectivement donc un écart entre lorsque le mode de représentation mobilisé ne correspond pas à la portée de l'exercice de planification. C'est ce que je viens de dire tantôt. Donc, la situation observée lors de l'élaboration du plan d'urbanisme de Montréal, donc ça a été observé. Là, je reviens sur cette phrase anecdotique. Et donc, là, effectivement, donc la représentation construite à l'époque du plan d'urbanisme, du moins dans ses premières étapes, ne rendait pas suffisamment compte du projet du territoire, ou du territoire en devenir, devrais-je dire.
10 minutes, ça.
Ouais, là je pense que 10 minutes, ça va. Je vais essayer de parler plus vite. On a parlé de représentation, d'image. Dans ma réflexion, je me suis dit, ben, finalement, cette représentation, cette image, comment on la construit? Comment est-ce qu'on l'élabore? Je suis parti du postulat et c'est toujours comme ça, hein, c'est souvent le cas. On part d'une intuition, puis on se rend compte que d'autres chercheurs finalement l'ont développé, l'ont pensé, hein, que la représentation n'est pas un résultat, mais plutôt un processus. Donc, une image qu'on voit, plus qu'un outil, c'est une méthode en soi, une méthode de conception, une méthode de travail. Donc, partant de là, comment formaliser un tel processus? Alors là, je parle des représentations. Là, c'est vrai que j'aurais dû le faire au départ. Je me limite vraiment aux représentations, à ce que j'appellerais l'image projectuelle, c'est-à-dire l'image de projet. Parce qu'il y a toutes les représentations, les images de diagnostic, par exemple, que eux aussi, c'est un autre type de représentation. Mais ce dont je parle essentiellement, c'est ces images qui projettent l'avenir. Alors, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de recette, il n'y avait pas de mode d'emploi. Pour fabriquer une carte, on demande un cartographe ou quelqu'un qui fait des cartes ou qui conçoit des cartes. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est à la limite de la technique et de l'art. C'est un petit peu compliqué. Alors, je suis parti à la pêche un petit peu et j'ai trouvé le poisson du côté de la sémiotique. La sémiotique de Peirce. Vous allez voir, là, je ne vais pas beaucoup élaborer là-dessus, mais juste pour vous dire, en vous en dire deux mots, là, ça me paraît très, très fécond. La sémiotique, généralement, il y a deux grandes écoles. Il y a la sémiotique de Saussure, qui pose le signifié avec le signifiant. Alors, le signifié, c'est l'intention, c'est le discours. Puis le signifiant, ben, c'est quoi ça, c'est quoi là, c'est sa matérialisation. Hein. Quand on dit un chat, ben, le chat, la lettre CHAT, c'est le signifiant. Le signifiant, ben, c'est le concept de chat. Peirce introduit dans cette polarité signifié-signifiant la notion de référent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signifié, le discours est en relation avec un référent. Dans notre cas, le référent, là, c'est le territoire, c'est l'étendue territoriale. Alors, on va voir maintenant comment on peut formaliser tout ceci, c'est-à-dire comment la construction graphique, comment la représentation avec cette lunette, la lunette sémiotique, peut trouver une façon formalisatrice. Alors, le signifié, hein, donc, qui est l'ordre de l'intention, du projet. Donc, on va formuler une intention de projet. Cette intention n'est valable que par rapport à une étendue territoriale. Elle est toujours ancrée, elle est née que contextuelle. Donc, ça fait référence ici au référent. Une fois que c'est fait, ben, on a un signifié qui est attaché à une étendue territoriale, un projet attaché à une étendue territoriale. Ben, on va, à ce moment-là, le matérialiser par un signifiant, par le biais de ce qu'on appelle des signes sémiotiques. Je vais en dire quelques mots tantôt. Une fois que c'est fait, ben, on revient au signifiant, c'est-à-dire qu'on va faire une délibération, on va réinterpréter ce signifiant à l'égard de l'intention de départ. On va voir s'il y a un écart. S'il n'y a pas d'écart, c'est correct. S'il y a un écart, on revient. On revient, donc on ajuste. Et c'est vraiment c'est une itération. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que c'est un processus. Donc c'est pas linéaire. Rarement une carte n'est réussie une première fois. Ça prend toujours des allers-retours. Il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés autour de ça.
Karine, une question de clarification. Le signifié, dans ce cas-là, c'est le dessin DE2SEN.
C'est ça, c'est
Et le
l'intention.
signifiant, c'est
C'est
DE2SIN.
ça. Et les deux n'ont de sens que par rapport à une étendue territoriale. Donc là, je voudrais dire quelques mots sur cette relation de référent signifiant. Le référent n'est jamais, l'étendue territoriale n'est jamais prise dans ce que je dis, dans l'absolu. Elle est toujours empreinte d'une intention. Alors pour faire une carte, une image, une représentation, on mobilise ce qu'on appelle les trois signes persiens, l'icône, le symbole, l'indice. Vous avez remarqué, l'icône, ce n'est pas une faute d'orthographe. J'ai délibérément enlevé l'accent sur le O. Beaucoup d'auteurs le suggèrent pour la dissocier de son acceptation religieuse. L'icône religieuse est une chose, mais là, l'icône au sens persien, c'est vraiment le rapport qu'entretient un signe avec son référent. Donc c'est, dans le cas de l'icône, c'est un rapport de similarité. Les cas extrêmes, c'est l'image, une photographie, donc il y a une ressemblance entre l'image et son référent. Ça peut être une montagne, un paysage. Le symbole, lui, est de l'ordre de l'arbitraire. Il entretient une relation arbitraire avec son référent. C'est le texte, l'alphabet, ça peut être le logo, par exemple. L'indice, lui, oh, je vais aller trop vite. L'indice, lui, et là, ça va être intéressant. C'est intéressant, c'est là où je situe certaines technologies de l'information. Entretient, lui, un rapport physique avec son référent. Vous savez, c'est l'empreinte digitale, c'est l'empreinte, les pas de pied sur la neige, sont de l'ordre de l'indice. Et là, donc, ça nous donne trois dimensions, trois axes, l'iconicité, la symbolicité et l'indicialité. Une fois qu'on a ça, bah, ça va être facile de fitter les images, les modes de représentation. Par exemple, les photos, les photographies sont de l'ordre de l'icône, sont iconiques, parce que le rapport de similarité avec le référent est très fort. Le texte, je le mentionnais tantôt, sont de l'ordre du sens, de l'ordre du symbole. L'indicialité, là, j'introduis toute la question de la géoréférence, vous savez, les systèmes de projection cartographique en géomatique, etc. On est dans l'indicialité, au sens persien du terme. Et là, j'illustre un petit peu avec en rouge les différents domaines, les différents types d'images, où est-ce qu'on comment elle se situe dans ce spectre, dans cette grille de lecture. La géomatique, par exemple, elle est vraiment dans l'ordre de l'indicialité. C'est pour ça que souvent les images qui sont produites par MapInfo, à l'état brut ou ArcGIS, de façon rapide, hein, comme outil de travail, elles ne sont pas très iconiques. Le degré d'iconicité, de ressemblance avec le territoire n'est pas toujours évident. Ça prend une lecture, ça prend des habiletés à lire des cartes pour les comprendre. Certaines cartes qui sont faites en MapInfo, par exemple, ou ArcGIS, on ne peut pas les mettre tout de suite lors d'une consultation publique, par exemple. Ça leur prend un traitement graphique, etc. Les réalités immersives sont, elles, quant à elles, de l'ordre des réalités de l'iconique, sont en dimension iconique. On peut inventer des termes, hein, iconique. 5 minutes. Allez, merci. Là, ce que je tente de dire en rouge, une image ou une représentation qui est comprise, qui a du sens, elle devrait rejoindre le maximum d'iconicité, de symbolicité et d'indicialité. Ça, c'est dans un monde idéal. Mais la plupart du cas, des cartes ou des représentations qui ont été produites lors du plan d'urbanisme, elles sont un petit peu dans ce triangle ici. Elles ont une forte indicialité. C'est des cartes qui sont produites par la géomatique, donc la précision, la projection, les systèmes de coordonnées, etc. Le reste, il y avait une espèce de faiblesse qui explique qu'elle ne voulait pas dire grand-chose aux yeux de beaucoup. Là, je passe, effectivement, donc les réalités virtuelles, c'est un postulat, le numérique pourrait, à certaines conditions, tendre vers ces grandes conjonctions. Alors, défi d'un exercice de planification, et là, donc, je rentre un petit peu rapidement dans le vif du sujet, l'articulation du local et du global. Dans le cas de Montréal, on va le voir, c'est articuler des enjeux d'aménagement de portée globale et des enjeux locaux. Donc ça a été particulièrement vrai dans le plan d'urbanisme de Montréal, qui était un territoire en recomposition. Je le mentionnais tantôt. Dans le document d'urbanisme, il y a ce qu'on appelle des enjeux de portée pas montréalaise, des enjeux de portée d'arrondissement. Alors, cette articulation renvoie à ce que De Barbieu et Lardon appellent les connaissances génériques versus les connaissances singulières. Les connaissances génériques, ce sont des connaissances qui sont transposables d'un territoire à l'autre. Je vais donner quelques exemples de cartes, un exemple de carte tantôt. Les connaissances singulières, elles mobilisent des connaissances ancrées dans le lieu. C'est l'expérience des habitants, c'est la reconnaissance de certains lieux, certaines ambiances. Donc on s'attend à ce que cette dualité souligne à la fois la singularité du lieu et la cohérence du territoire en tant que totalité. Cette même considération, cette même réalité, je l'ai observée, on l'observe encore aujourd'hui durant l'élaboration du plan d'urbanisme où les arrondissements devaient affirmer leur particularité, leur singularité face à une administration centrale qui voulait, elle, plutôt donner une image homogène du territoire, ce que j'appellerais une image totalisante. Alors, la façon dont ça a été réglé dans le plan d'urbanisme, c'est que le générique, hein, c'est la carte globale, la carte de la densité. Le singulier était réalisé par un effet de zoom, tout simplement. Alors ça a irrité beaucoup de gens en arrondissement quand la ville-centre partait discuter ou négocier avec l'arrondissement sur les questions de densité. Quand ils montraient cette carte-là à votre droite, les gens, et particulièrement les élus, ils étaient mécontents. Ils disent, c'est là où on est en son. Je ne me reconnais pas, où est l'église du coin, où se trouve le dépanneur. À un moment donné, la carte là ne renseignait pas, ne rendait pas compte de la singularité du lieu. Donc c'est un petit peu cette dualité-là, ce problème qui apparaissait. Alors cette dualité renvoie à une autre dualité. C'est un petit peu plus conceptuel, mais je tenais un petit peu à le rappeler, c'est la notion de dialogique. Donc c'est pas nouveau cette dualité entre le global, le gêne et le local. Edgar Morin parle de dialogique. En fait, c'est quoi? C'est un principe qui unit deux notions antagonistes qui apparemment devraient se repousser l'une l'autre, mais qui sont indissociables pour comprendre une même réalité. Et là, c'est vraiment, on est au cœur de l'articulation du générique et du singulier. Donc le générique et le singulier, donc, peut être entendu comme des notions antagonistes. Donc on peut asseoir cette articulation en termes de dialogie. Alors pourquoi je dis tout ça? C'est parce que les connaissances génériques versus les connaissances singulières mobilisent des représentations propres. Je fais aussi un lien avec la sémiotique. C'est que la dialogique singulier-générique peut être exprimée en une dialogique iconicité, symbolicité, indicialité. Là, j'ai essayé de tenter de faire une modélisation, une représentation pour exprimer ce propos. Le singulier est de l'ordre de l'iconicité. C'est que le singulier exige un rapport de similarité, de ressemblance avec un référent. Le générique ou les connaissances génériques, quant à elles, mobilisent plutôt des signes persiens de l'ordre du symbole, de l'ordre de l'indice. Et ça, c'est mon interprétation à moi, c'est que la géomatique se situe à ce niveau, essentiellement. Donc elle doit, à mon avis, a du chemin à faire pour aller chercher, rendre compte de représentations un peu plus singularisantes du lieu. Là, je vais passer rapidement, c'est un petit peu la fin. Je l'ai voulu en images, puisqu'il est question d'images. Le zonage, la plupart de vous connaissent ce que c'est qu'un zonage, hein. C'est un document, d'ailleurs c'est un des rares documents, je pense, qui n'a subi aucune évolution depuis, je pense, depuis qu'il existe, hein, depuis 50 ans, 60 ans. Ça a toujours été la même facture graphique. C'est vraiment la représentation générique par excellence, c'est que le code graphique peut être transposé d'un territoire à l'autre. Ça, c'est Montréal, mais ça peut être n'importe où dans le monde. Versus les représentations singularisantes, on voit de plus en plus ce type de représentation où elles sont ancrées dans le lieu, elles vont faire manifester certains emblèmes. On voit ici Mont-Royal à Montréal, l'hôtel de ville, etc. Puis de plus en plus aujourd'hui, on assiste à une espèce de tentative de conjonction de ces deux modalités de représentation. J'ai donné l'exemple du mashup, mais ce n'est pas le seul, où on a dans des interfaces, dans un seul environnement, un mix des deux. Là, j'en ai mis, là, c'est un projet pilote qu'on mène actuellement à la ville de Montréal avec le logiciel qui s'appelle Arc Explorer, où on est en train de voir justement cette possibilité de mettre le zonage, toutes les représentations de portée générique, réglementaire, avec des représentations qui vont faire référence au lieu habité, au quartier, à certains emblèmes identitaires du lieu, etc. Là, c'est l'avant-dernière diapo. Je souhaitais vous montrer cette diapo aussi. C'est toujours en rapport avec mon propos. Cette dichotomie qu'on a entre les connaissances singulières et les connaissances génériques, là j'ai représenté un petit peu un processus d'élaboration d'une carte qui porte sur les secteurs défavorisés, pour ne pas dire les secteurs pauvres. Tiens, on dit défavorisés, c'est moins péjoratif que pauvre. Donc la ville de Montréal, dans le cadre du plan d'urbanisme, avait à identifier les secteurs de la ville qui devaient faire l'objet de subventions, de revitalisation urbaine, etc. Donc il y avait une première série de cartes qui étaient faites, comme ça, qui ont été faites par analyse factorielle. Je pense qu'il y a eu 17 variables socio-économiques issues de données de StatCan à l'époque. Donc il y a eu une analyse factorielle qui a été faite. Donc on a produit ce type de carte. Et quand on allait avec ces cartes sur le terrain, en arrondissement, dans le quartier, c'était un levé de bouclier, parce que les gens étaient, comment ça vous habitez de l'autre côté de la rue, je considère aussi que je devrais bénéficier de subventions. Les gens ne se reconnaissaient pas. Donc, il y a une espèce de. Vous voyez cette carte-là pour aboutir ici, ça a pris 41 semaines parce qu'il a fallu ajuster. Et regardez, là c'est aux aires de diffusion, hein. Ça, c'est un découpage aux aires de diffusion. On est arrivé à ce type de représentation. pour évacuer toute ambiguïté, tout malaise, en tout cas on reste encore dans le flou. Et c'est bien et c'est pas bien. Je vais vous dire pourquoi c'est bien, parce que ça permet un certain consensus quand on en discute. Mais quand les gens veulent aller chercher des subventions, ben c'est quoi la limite quand on est là?
C'est pas facile.
Puis enfin, je voulais vous montrer aussi cette image qui fait partie intégrante du plan d'urbanisme de Montréal. Et je peux en parler parce que je suis un petit peu l'auteur de cette image. On ne voit pas beaucoup ce genre d'image dans un plan d'urbanisme. Je vais vous dire pourquoi. Dans le cas de Montréal, ça a été requis. Enfin, requis. On semblait que c'était nécessaire parce que lors des diffusions, des fusions municipales, vous savez qu'il y avait des frictions, des arrondissements, des anciennes banlieues qui étaient rendues arrondissements. Ils voyaient leurs prérogatives en matière d'aménagement leur échapper. Donc c'était la ville-centre qui décidait des orientations. Il y avait nécessairement des frictions. Et les premières étapes du plan d'urbanisme, quand la ville-centre allait en arrondissement, le nouvel arrondissement qui était ville de banlieue à l'époque, ça ne marchait pas. Il y avait un champ de coq là, on n'en arrivait pas. Donc on m'a demandé comment on peut faire. Y a-t-il un moyen de faire une carte qui ne soit pas du zonage, qui soit... Parce qu'on ne peut pas parler juste avec des mots, juste avec des phrases. Ça prend une carte pour discuter. Donc on avait expérimenté ce type de carte. Et je peux vous dire, la première fois que ça a été amené sur la table, du coup, là, c'est espèce comme si la carte avait participé à une espèce d'apaisement. Les gens commençaient à... Parce que l'arrondissement se reconnaissait. Ça, c'est un secteur... industriel, mais tu sais, la limite, elle est... bon, on ne sait pas encore, tu sais, on est encore dans l'ambiguïté, mais ça, on va le faire avec vous. C'est avec vous qu'on va le faire. Et donc, c'est un travail qui a été fait en collaboration, en concertation avec l'arrondissement. Je vais juste dire une dernière anecdote. Là. Je pense que je vais conclure là-dessus. À Montréal, dans le secteur Montréal-Nord, qui est un des secteurs assez chaud à Montréal, ici, on voit ici dessiner ce qui était la future autoroute 25 qui devait franchir le fleuve d'autre côté pour rejoindre Laval. Et il y avait beaucoup d'opposition. C'est que l'arrondissement ici n'était pas favorable à ça parce que le bassin de population pouvait facilement aller d'autre côté de la rivière, c'était moins cher. Mais la ville-centre était prise entre le marteau et l'enclume, entre le gouvernement du Québec, qui lui voulait que la 25 poursuive parce qu'il y avait un grand schéma métropolitain de transport, et l'arrondissement que lui était contre. Donc il fallait trouver des compromis. Les compromis, c'était quoi? Écoutez, votre secteur a revitalisé. On va vous l'étendre ici, vous allez recevoir des subventions, vous allez recevoir de l'argent du fédéral, du gouvernement du Québec, de la ville-centre. En contrepartie, la flèche ici, on va l'arrêter ici, mais on sait qu'elle va trop loin. On sait qu'un jour ou l'autre, il va y avoir un pont. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que le fait de dire ça, de matérialiser ça de cette façon, ça a permis temporairement d'aplanir les différends. Les conflits étaient là, ils étaient latents, mais temporairement, d'une façon temporaire, les gens étaient prêts à négocier, à discuter autour de la carte. Et donc ça a permis de continuer les plans d'urbanisme et d'éviter certains blocages, je dirais. Et un petit merci.
Merci beaucoup, Karine. Alors on ouvre une période de questions. Oui.
Moi, j'avais une question, vous avez pas mal parlé sur la fin de la présentation, de la question du flou. Je voulais savoir si vous pouvez un peu développer cette approche qui, pour moi, intéressant pour éviter de cristalliser le débat,
en fait,
si vous avez
ouais. Cette approche. Ouais. D'ailleurs, on nous avait demandé de faire des flous carrés à l'époque. On ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Mais je disais tout à fait au début, là, un exercice de planification urbaine, un exercice de projet, c'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'ambiguïté, mais beaucoup des intérêts divergents. Il y a du bon dans la précision, mais aussi, à un moment donné, il y a certaines limites. C'est bon d'être précis, mais l'imprécision peut apporter aussi comme une espèce de... un peu aplanir. Quand je dis aplanir, c'est toujours temporaire. Les conflits, les différences sont toujours là, mais on accepte temporairement de discuter autour de ça. Et le flou, à mon avis, l'expérience l'a montré, amène un certain consensus.
Où il évacue, mais
on revient aussi. Tu dis, on évacue le politique.
Les rapports de pouvoir, ça c'est flagrant, tu sais, parce que dans les faits, la RUI, par exemple, la revitalisation urbaine intégrée, se basait sur les zones de défavorisation, les aires de diffusion. Ouais. Donc même s'il y avait un flou sur les frontières,
effectivement,
dans les faits, l'argent allait juste à ces territoires.
Oui, publiquement, c'est ça qui est montré, mais dans les faits, quand les gens vont chercher des subventions, effectivement, le fonctionnaire qui est derrière le comptoir, c'est ça qui regarde.
Mais c'est là qu'il y a problème, c'est pas dans l'utilisation du flou. C'est-à-dire que, où je trouve qu'il... C'est-à-dire la question, elle se situe dans le fait où comment ça fait que ce soit une carte ou une aire de diffusion qui a été délimitée sur des objectifs statistiques et pas des objectifs politiques. Ce n'est pas un outil décisionnel, une carte, a priori. Où, par le biais des procédures, ça le devient, mais ça ne devrait pas, on le sait bien. Mmh. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, on sait très bien que juste de l'autre côté de cet îlot, il peut se trouver des gens ou une situation ou qui devraient recevoir de l'aide et peut-être pas dans le carré. Tu sais.
Vous direz, pour cet exercice en particulier, on ne devrait pas le dire, mais il y a eu comme une espèce de... On a un petit peu triché, effectivement. Et ça, et c'est le politique. C'est toujours comme ça. L'élu de ce district, pour garder son bassin électoral, il a dû faire des interventions très fortes auprès du central pour que un îlot de l'autre côté soit versé, bien que les études statistiques rigoureuses avec analyse factorielle disaient le contraire. Il y a certains îlots, certaines aires de diffusion qui ont été versées. Mais ça, on le sait, on l'a accepté, ça a été débattu.
C'est pas forcément une erreur.
Non, c'est pas une erreur.
On doit quand même toujours se demander est-ce que c'est vraiment mieux que ce soit une analyse factorielle qui décide où on met les subventions.
Moi, ma réponse à moi, les outils statistiques ne sont qu'une base de départ.
C'est ça,
après, là, il faut laisser le. Je dirais pas la raison, enfin, c'est pas la raison, mais le jeu des négociations de se faire.
Dans la lignée concernant cette carte, j'avais une question, c'est. Parce que ça, c'est un géomaticien qui l'a fait.
Ouais.
J'imagine, hein. Mais ça, pas forcément. Ou est-ce qu'il y a la profession qui change ? C'est-à-dire, est-ce que tout à coup, on passe la main à un graphiste, à quelqu'un qui,
c'est plus
qui va avoir un autre rapport à l'image, justement ?
Je dirais, c'est plus la profession qui change. Et là, on a vraiment... Ouais. Pour passer de l'un à l'autre, ça a pris...
Du temps,
mais conflit, parce que les géomaticiens qui faisaient le plan d'urbanisme, c'était ça. Ça, c'est la vérité. Pas question de. Le géomaticien me disait fais-moi donc un flou géoréférencé, toi. Mais c'est ça, donc il y a un changement de profession, c'est comme tu dis, il y a un changement de.
De culture,
de vision même.
Ouais.
Mais ça, c'était nécessaire pour faire passer le projet, c'était nécessaire. Et c'est pour ça que je disais tantôt l'image dissimule, hein, autant qu'elle simule. Et apprendre et à laisser.
Est-ce que je peux juste continuer sur le flou et son intérêt justement dans peut-être revenir plutôt au schéma figuration par rapport à la problématisation que tu présentais là. Est-ce que je comprends en fait que pour toi la figuration
ça,
ouais, ici, la figuration est le dessin DESSIL finalement qui traduit bien à la fois les théories procédurales, l'action sociale, le coordonnateur.
Pour faire un rapprochement, un raccourci, j'aime pas beaucoup les raccourcis, mais je vais le faire pour la circonstance. Le flou qu'on a vu tantôt, il est de l'ordre de la figuration. Parce qu'on se situe dans des modes de planification. Procédural, de planification, de communication.
Mais est-ce que c'est pas plutôt la problématisation qui rendrait bien compte de cet écart dont tu parles entre la complexité puis oui. la projection. Alors, d'une certaine façon, on pourrait inverser facilement puis dire que c'est la problématisation qui traduit peut-être plus facilement l'action sociale, entre autres, puis les processus, et qui sert de premier flou.
De premier, effectivement, ouais. parce que dans cet exercice, les deux sont indissociables, okay. les deux sont nécessaires. On a vu dans la carte que j'ai montré tantôt, avec l'analyse factorielle, donc ça c'est toute la phase problématisation, tu sais, on va tester des affaires, les aires de diffusion, c'est assez rigoureux,
etc. Discuter avec la population.
On va discuter, etc. Ouais. Mais une fois qu'on veut diffuser ça très large, sur Internet, sur etc., on essaie qu'il y ait le moins de... pas de débat, mais le moins de friction. Et là, on est vraiment dans la figuration.
Et c'est là que ça devient utile, c'est ça, de faire ouais. la figuration.
Ouais. Okay. Enfin, souvent, c'est ça, je vous montrais l'exemple tout à l'heure de l'échangeur turco. Ouais. Souvent, on ramène des représentations de l'ordre de la problématisation, par exemple, en public.
Okay, alors
c'est beaucoup ça. Ça veut dire que l'utilisation de la géomatique dans les processus participatifs, on en est là pour l'instant.
C'est ça. C'est qu'on montre des cartes qu'on appelle des cartes très savantes, très élaborées. Et on pense que tout le monde a les mêmes aptitudes à lire une carte. Lire une carte, ça prend certaines aptitudes. C'est pour ça que de plus en plus, on essaye de mixer les deux. Là, j'ai montré l'exemple du mashup. On montre le 2D, mais c'est le 3D, mais aussi le point de vue de la rue, du piéton. Donc c'est une combinaison de tout ça qui rencontre un petit peu d'une réalité territoriale.
Oui. Vous parlez de 3D. Est-ce que la 3D aujourd'hui, ça ne peut pas réduire un peu l'écart entre la connaissance générique et puis la connaissance singulière dont vous parlez avec la réalité augmentée qui est là?
J'irais plus que ça, on parlait tantôt d'un projet pilote en ce moment, de ce qu'on appelle réalité immersive. À Montréal, on est en train de tester justement ce type de réalité, une espèce de dôme hémisphérique. Pour ceux qui connaissent un petit peu Montréal, ce qui est fait par la SAT, la Société des Arts Technologiques, donc il y a un partenariat avec la ville de Montréal, où les projets d'aménagement vont être mis dans cette plateforme, où les gens vont rentrer à l'intérieur, et être dans le projet. C'est donc, là, ça porte un autre niveau. Là, on est plus que la 3D. Là, on est vraiment rendu dans de l'immersion 3D, en fait. Et là, c'est vraiment, le summum. Là, c'est...
Vous avez parlé de peut-être de l'échelle locale, globale, plutôt des logiques de fonctionnement local et global, mais je me demande, premièrement, est-ce qu'il y a une échelle entre le global et le local? Et puis, jusqu'à quel point le local, il correspond au global, en général?
Pour répondre, je vais être sûr d'avoir bien compris.
C'est ça. Je pense qu'il y a deux échelles, dans le fond, il y a l'échelle locale et globale. Vous avez parlé pas mal de ça, c'est ça?
Donc, il existerait des échelles intermédiaires, tu vois?
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des échelles intermédiaires entre les deux?
Mais les échelles intermédiaires, dépendant de l'angle, pourront être locales ou globales aussi. Je pense que, ça c'est un schéma général, mais dépendant de... Pas ce que je pourrais donner comme exemple,
quand
mais...
Quand vous parlez des échelles, est-ce que c'est des logiques de fonctionnement bien jusqu'à de quelle perspective quand vous parlez des échelles locales et globales? Est-ce que c'est beaucoup plus genre...
Est-ce que tu parles d'échelle en termes scalaires, de cartographique ou...
En termes de cartographique, c'est ça la question. Est-ce que c'est en termes de cartographique ou bien en termes de plusieurs dimensions cartographiques, socio-économiques?
Quand on dit une échelle globale, c'est pas en termes de 1 millième ou 1 cinquième, dans mon propos, là, c'est pas ça. Une échelle globale, ou globalisante, ou générique, c'est des échelles... qui permettent de transposer une représentation d'un territoire à l'autre. On représente des territoires de la même façon. Le zonage que j'ai montré tantôt, il est fait de la même façon à Québec, à Montréal ou à Rivière-du-Loup. C'est des images génériques, c'est ce qu'on appelle globalisantes, des images totalisantes. Quand je dis l'échelle locale, c'est pas en termes d'échelle cartographique, hein, c'est une échelle en termes de singularité du lieu, aussi, en termes de connaissance singulière du milieu. C'est un peu plus conceptuel.
Mais en d'autres termes, le global dépend de ce qu'on regarde. Je suis pas petit. Akram est dans l'atelier dur. Alors je comprends l'essence de sa question. Je comprends, vous, le global, il dépend de ce que tu regardes. Tu sais, c'est pas donné une fois pour toutes. Comme le disait monsieur, c'est pas scalaire. Le global, c'est pas échelle 50 000, puis après ça, le local, échelle 2 000, puis après ça, l'intermédiaire, 1, 2, 3, selon l'échelle. C'est par rapport à ce que tu veux dire, à ce que tu veux montrer. Donc, si tu travailles sur un grain très fin, ton échelle globale, donne un exemple bête, ça peut être l'îlot, par exemple. Exactement. Alors qu'en fait, l'échelle globale pourrait être aussi l'agglomération, le pays, la planète. Ça dépend de ce que tu veux dire.
L'échelle là, que j'introduis, c'est en termes de connaissances. C'est des connaissances globales versus des connaissances singulières.
Je pense qu'on est dans le... Il y a deux questions. OK. Alors, d'abord, Jeanne.
Ça va être très rapide. C'est une question d'éclaircissement. Vous avez montré un plan de zonage. Moi, c'est peut-être moi qui sonne. J'ai toujours appelé ça quand j'allais à la ville, avant qu'on ait de la géométrie, que j'étais étudiante, vraiment. On allait chercher des cartes à la ville sur Vigée, en face du square Vigée, au service technique pour avoir des plans d'occupation du sol, où on voyait tous les bâtiments, puis c'est la carte que vous avez montrée. Et moi, j'ai toujours compris que ça, pour moi, c'était un plan d'occupation du sol, c'est comme ça qu'ils appelaient la ville, et de ça, on faisait un zonage. C'est pas un zonage, c'est une représentation des rues, des îlots,
oh ouais, mais on,
des cadres bâtis.
Non, mais ce qu'on voit ici, là, si vous voyez les lettres, les CP, effectivement, peut-être le zoom n'est pas bon, mais normalement...
Non, c'est votre ligne en haut, le piste pour parking. Donc, c'est cette ligne-là qui... On voit une ligne en haut qui détermine une zone.
C'est parce ça, on voit ça.
Oui, ça, c'est votre ligne de zone. Okay? Parce que le plan, le zonage, c'est ce qu'on mettait sur la carte, le plan d'occupation du sol, qui était une photographie, si je peux dire, réelle.
OK.
Mais réelle à un moment donné. Puis, c'est toujours le problème, parce que tu avais une carte de 1900... Moi, je me rappelle, tu sais, une année, c'était 1992, j'en avais besoin... connu ça, c'est aller à la ville chercher
un bout de carte. Oui, je pense que c'est plutôt la carte topo, la carte, ce qu'on appelle la matrice graphique, là. C'est la carte de base. Mais...
Moi, je voulais vous demander votre impression, si vous pensez que l'image elle a sa place vraiment à toutes les étapes du projet de territoire, en fait, dans le diagnostic, dans les objectifs, dans la phase opérationnelle. Ou est-ce qu'il serait peut-être pas bon de la mettre de côté à certaines étapes? C'est pas bon.
Moi, je suis de ceux qui pensent qu'elle doit être mobilisée à toutes les étapes. Ouais. Justement, c'est pas, faut pas qu'elle arrive en bout de piste. C'est parce que j'en fais la preuve tous les jours dans mon activité professionnelle. Quand on discute avec des ingénieurs, avec des différentes parties prenantes sur un projet, on n'a pas la même dynamique qu'on a avec une carte. Avec une carte, là, on pose des problèmes. Et avec une carte, ce qui est intéressant avec la représentation, c'est que ça fait ressortir les problèmes, les enjeux. Je vais juste un exemple. Je travaille actuellement sur le projet d'échangeur turco du ministère des Transports à Montréal. Et donc, il y a toute une partie de l'échangeur, un bras de l'autoroute qui va passer dans un quartier... populaire, j'aime pas le mot populaire, mais assez densément construit. Et donc les représentations que donne le ministère sont toujours idylliques, un petit peu, donc ça fait pas ressortir le problème. Et je me suis amusé à superposer le projet sur une orthophotographie aérienne. Et là, les enjeux, les problèmes ont commencé à tac, à sortir. On s'est rendu compte que le projet passait sur...
ils ne travaillent pas sur des orthophotos, ils ont juste des plans à venir, la vision souhaitée, mais jamais une carto, une représentation graphique quelle qu'elle soit. Moi, ce que j'ai vu au début, c'est un dessin d'ingénieur en transport.
Bon. Bon, c'est ça.
C'est ça. C'est la vue de l'esprit construit.
C'est ce qu'il appelle
la vue. Parce que c'est juste parce que dans mes cours, nous autres, j'ai travaillé mes étudiants sur des orthophotos sur lesquels on dessine des choses pour voir ce qui existe, parce que sinon, tout n'importe quoi va très bien. C'est un dessin d'ingénieur.
Moi, j'ai pris ce dessin d'ingénieur sur le projet qui est en rouge. J'ai mis ça sur une orthophotographie aérienne.
Ben oui,
et je peux vous dire que le discours change.
Vous êtes en train de me dire qu'à la ville, faire ça, c'est innovateur. Il ne faisait pas, là. C'est la surprise, là. Non. Vous venez vous dire.
Ouais, okay, je vais vous dire pourquoi.
Que vous arrivez à leur proposer des choses très sensées et que ça, là, c'est comme le.
Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Oui, c'est parce que, vous savez, la corporation des géomaticiens détient l'information, c'est assez puissant à la ville. Eux, c'est ça, c'est correct. Les urbanistes, eux, voudraient superposer ça à l'orthophoto, mais c'est comme de la science-fiction. Mais c'est de la science-fiction pour eux, parce que c'est pas tout le monde qui a les habilités techniques.
Mais non, mais tu vas en chercher, tu t'en vas au service, tu t'en trouves, tu trouves un
excusez-moi. Mais la géomatique, ils vont te dire, oui, mais dans une semaine, mais toi, t'en as besoin tout de suite, parce
mais
que t'as une réunion.
C'est ça,
mais
oui, moi. Le calque, il se moque
là. Je crois que pour moi, la présentation ou la réflexion de Karim, elle met aussi en évidence le fait que. La carte, elle évolue. En tout cas, moi, je comprends aussi comme ça ton discours d'une discipline, parce que la cartographie, c'est une discipline à la base. C'est la discipline des géographes, des géomètres, et c'est en train de devenir un champ interdisciplinaire. Ça veut dire que l'idée, c'est pas de dire que le géomaticien va être capable de. Tu sais, si tu prends la sémiotique de Peirce, là, il va pas avoir les compétences pour couvrir toutes les dimensions que doit avoir une image. Mais par contre, il peut s'associer à des autres intervenants sur la carte qui, eux, peuvent l'enrichir et lui donner justement plus de sens. Mmh. Et je crois que pour l'instant, quand on fait une carte, ben, le message, il va à un géomaticien. Le géomaticien, il donne une carte comme celle pour un géomaticien. Puis après, on l'affiche en sciences publiques.
Je dirais que les urbanistes ont perdu l'invité parce que, effectivement, toute votre présentation, d'ailleurs, je vous félicite, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Puis la partie théorique aussi sur. Enfin, j'ai trouvé que le discours était rafraîchissant par rapport à un discours habituel en géomatique. On est ailleurs, Et ça, je trouve qu'il y a eu une avancée là, que je salue. Mais ceci étant dit, il en demeure pas moins que, je veux dire, en urbanisme, parce que le zonage commence à la fin du 19e en Allemagne, on fait des représentations. Mais on a perdu en urbanisme cette capacité à représenter. Parce qu'on représente en fonction de ce que je comprends, mais vous le théorisez très bien. C'est la première fois, d'ailleurs, j'assistais à une présentation qui théorisait sur l'art de la représentation et de l'aménagement. Et je dis l'art ici dans son sens très large, qui rejoindrait notre ami Edgar d'ailleurs, mais il en demeure pour moi qu'on a perdu ça en urbanisme. Et donc là, vous innovez, c'est de réactualiser avec des outils autres, mais il en demeure pour moi qu'on a perdu.
Ouais, moi,
ce sera le mot de la fin, Karim, d'accord?
Ok,
donc je faisais bien ta réponse. J'ai dit ce sera le mot de la fin.
C'est ça qui me met de la pression, là. C'est ça, juste, je ne vais pas conclure, mais juste pour répondre à ça, apporter un autre éclairage, c'est que historiquement, ceux qui ont étaient amenés à penser la ville, la dessiner, by the way. Ceux qui pensaient la ville, depuis le. Qu'on a commencé à penser la ville en projet, en devenir, en la dessiner en même temps. Je pense que c'est l'avènement des technologies, de la géomatique, de la cartographie automatisée, s'est accaparé de ce domaine, de la représentation. Et donc les urbanistes, au moment donné, les planificateurs ont été pris un petit peu au dépourvu face à ces technologies. Donc ont délégué la représentation aux géomaticiens, aux cartographes, donc aux nouveaux experts dans ce champ. Et donc l'urbaniste, le planificateur, pour dessiner, il était comme tributaire du géomaticien ou du technicien. Et je pense que c'est ça le problème. Et là, je l'assiste, je le vois tous les jours dans le cadre de mes activités professionnelles. Il y a comme un espèce de retour. Les urbanistes commencent de plus en plus à s'intéresser, dire où. Si je veux devenir un bon communicateur, il faut que je sache dessiner aussi.
Pour bien le penser.
Bien
pas
le
penser. Juste
le ouais, bien le penser, le problématiser aussi.
Ah, c'était une belle conclusion.
Merci. Merci à vous.